parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Il est 21h, c'est l'heure de Confidence. Et nous sommes le lundi 8 mai de l'année 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite d'aller mieux. Et certain, c'est sûr que vous irez mieux d'ici 23 heures. Voilà, je l'espère, on va tout faire pour en tout cas. Voilà, chers amis, eh bien, en ce 8 mai, aujourd'hui, nous travaillons, nous sommes là. Enfin, c'est pas du travail, c'est du plaisir que de partager, en tous les cas, ces instants, ces moments avec vous. Voilà, chaque soir, de 20h à 21h. On va dire bonsoir à Solal qui réalise cette émission, qui vous répond également, qui vous répondra au standard. Bonsoir Solal.
Bonsoir, et oui, comme tu le dis si bien, c'est du plaisir. Donc
c'est du plaisir.
Évidemment que je vais bien, franchement j'ai la banane, trop content de reprendre.
Mais... génial, ça a été ton concert vendredi.
Franchement incroyable, je ne m'attendais pas à
ce qu'il y ait autant de monde.
Pas 100 personnes.
Combien ?
100 personnes.
100 personnes.
Il se peut que j'étais un peu méditerranéen.
Non, t'as dit 100, moi je dis 200, le prochain concert 200.
Exactement.
Et ça ira comme ça en montant, et je te souhaite en tous les cas beaucoup, beaucoup de succès.
Merci.
Dans ton autre carrière, puisque tu es un personnage double, mais dans le bon sens du terme. Voilà, c'est un artiste, un véritable artiste. Voilà, c'est un homme de radio. Voilà, de radio, de télé, de spectacle aussi, hein, de lumière. Voilà.
Incroyable, tu me désignes plein de cordes de métier qui me plaisent.
Je te vois comme ça, je sens les gens, et toi je sens que tu vas aller vraiment au bout, vers la lumière, en tous les cas, au bout de tes rêves.
Ça fait plaisir.
Je te le souhaite de tout mon cœur. Et si tes parents sont à l'écoute, eh bien, je leur dis bravo pour l'éducation, tabarakallah, voilà.
Gros bisous à papa et à maman qui sont en Islande actuellement.
En Islande bien. Quelle idée. Ah là là, gla.
Ouais, tu m'étonnes.
Je sais pas, j'aurais plutôt pensé une île quelque part où il fait chaud. Ah, ils aiment l'Islande.
Franchement, c'est la première fois qu'ils y vont.
Ah ouais.
Je les envie pas du tout, ils doivent se les peler là.
Ah dis donc, quelle idée. C'était un rêve, ton père ou ta mère?
C'est un petit cadeau d'anniversaire pour mon père qu'a fait ma mère, à mon père du coup.
Ah ouais, remarque ça, il doit y avoir des paysages magnifiques, hein, tu me diras.
Et oui, les geysers viennent d'Islande.
Ah ouais, c'est vrai, voilà. Ouais, c'est pas faux. Moi, sauf que je suis frileuse, je te dis ça.
Okay. On est deux.
Ah ben voilà. Bon, ben écoute, je te laisse répondre au standard, Solal, qui a un joli bonnet rose aujourd'hui, bariolé, avec des couleurs. Et toujours... t'as toujours un look un peu... Ouais, bah c'est un artiste, si vous voulez, je vous le dise. 01 53 48 3000, vive la jeunesse. La jeunesse heureuse qui vit son temps. Vous avez raison, les jeunes. Mais oui. Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées. Ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir. Vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens, sans distinction aucune, chers amis. Voilà, une petite gorgée d'eau, parce que le sujet, il est quand même assez poignant, dirais-je. Bon, alors, cela ne vous a pas échappé, nous sommes le 8 mai, d'accord ? Bon, ce matin, vous avez dû voir les commémorations, etc. C'est normal. Comme tous les 8 mai de chaque année. Et c'est une très bonne chose parce qu'il faut toujours rappeler l'histoire. C'est important. Voilà, c'est ça le devoir de mémoire de chaque pays. Voilà, donc on respecte en tous les cas toutes les commémorations, quelles qu'elles soient. Alors mon sujet ce soir, celui que je vous propose, écoutez bien. L'autre 8 mai 1945, massacre de Sétif, Guelma et Kharata, 45 000 morts. Le mardi 8 mai, 1945, alors que la victoire des Alliés sur le nazisme est célébrée sur tout le territoire algérien, la répression par les forces françaises d'une manifestation indépendantiste fait des milliers de morts dans la région de Sétif, à 300 km à l'est d'Alger. À côté du drapeau français figure pour la première fois le drapeau algérien vert et blanc, où vive la victoire alliée. Scandée par la foule succède les vives l'Algérie indépendante. Après un ordre du sous-préfet de retirer pancartes et banderoles, un scout musulman de 22 ans, Bouzid Sahal, refuse de baisser le drapeau algérien. Des heures éclate, un policier tire et le jeune homme est tué. La foule est saisie de panique. C'est le début des émeutes. La répression a fait 45 000 morts. Fidèles à leur réputation, Spahi et tirailleurs algériens ont fait preuve d'un courage exceptionnel dans les combats les plus durs et les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. Partout, en Belgique, en France, en Italie, en Tunisie, ils se sont illustrés pour l'honneur de la France. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne et l'Allemagne nazie et envoie plusieurs régiments de tirailleurs algériens en Tunisie. En 1937, la France possède par ailleurs 4 régiments de Spahi algériens, RSA. Après, avec 2 régiments de Spahi marocains, ils forment 3 brigades à cheval qui sont engagées à partir du 10 mai 1940 au Luxembourg et en Belgique. Sur les 123 000 Algériens engagés pendant cette campagne, 2600 ont été tués et 40 000 ont été faits prisonniers. La 3e division d'infanterie algérienne compte 16 840 hommes, dont 60% d'Algériens. 3 autres régiments de Spahi algériens seront engagés en Italie durant la campagne. Comme leurs autres camarades africains, les Algériens ont à surmonter les difficultés de combat rendues pénibles et meurtriers par la rudesse du terrain et l'acharnement défensif des troupes nazies, notamment autour de Monte Cassino. Les tirailleurs et Spahi algériens participent à la libération du sol métropolitain. De 1942 à 1945, les soldats algériens furent 134 000 à servir dans l'armée d'Afrique. Comme leurs camarades marocains et tunisiens, ils ont paré leurs fanions de gloire et forcé l'admiration et leurs drapeaux ont pu flotter victorieusement sur l'Allemagne vaincue. Spahi et tireurs furent partout des modèles de discipline et de bravoure au service de la France. En mai 1945, Paris fête la fin de la barbarie nazie. Alors qu'au même moment, de l'autre côté de la Méditerranée, l'armée française massacre plus de 10 000 personnes en Algérie, en représailles au soulèvement nationaliste de Sétif. Les Algériens qui ont combattu l'Allemagne aux côtés des Français réclament l'indépendance. Mais la France s'accroche à son empire. Quand en 1954 commence véritablement la guérilla du FLN, les gouvernements de la 4e République vont laisser carte blanche à l'armée pour établir l'ordre. C'est bientôt la bataille d'Alger. Les paras ont tous les pouvoirs pour réprimer et ne s'en privent pas. Arrestations massives, tortures, exécutions sommaires. Les massacres de Sétif, Guelma et Kherata sont des répressions sanglantes qui suivent les manifestations nationalistes, indépendantistes et anticolonialistes survenues le 8 mai 45 dans le département de Constantine. Voilà, chers amis, voilà. Avec beaucoup d'émotion, vous l'entendrez, vous l'avez entendu certainement, vous l'avez remarqué dans la voix, comme tous les ans ici sur Beurre FM, eh bien c'est notre commémoration à nous. Voilà, le 8 mai 45. Alors, donc 45 000 morts de Sétif, Guelma et Kharata. Voilà. Allah yirahmoum, yousalihoum shuhada. On va tout de suite prendre un premier appel et le premier appel, eh bien c'est l'Agdar qui nous appelle du 31 Toulouse, hein, je crois, c'est ça ? Bonjour l'Agdar.
Oui, bonjour Vanessa.
Bonjour.
C'est peut-être un sujet par rapport au cœur, tout ça.
L'Agdar, est-ce que tu peux éteindre ta radio, s'il te plaît ? Et le haut-parleur.
Oui.
C'est fait ?
Oui. Ouais.
D'accord, très bien. Merci.
Alors, je voulais dire, c'est peut-être un sujet hors sujet que je vais parler.
Alors, l'Agdar, tu as toujours le haut-parleur. Non, c'est pas possible, ça passe pas. Écoute, essaie de changer de pièce. Enlève le haut-parleur et la radio. Je te reprendrai juste après. On va prendre Fatima de Stein. Je te reprendrai juste après, mais règle ce problème, s'il te plaît. C'est inaudible. Bonsoir, Fatima.
Bonsoir, ma Vanessa. Comment vas-tu?
Ben, écoute, très bien. Je te remercie, Fatima. Bienvenue à toi, ma chérie.
Merci beaucoup. Ben, écoute, j'ai trouvé super ce que tu as dit, ce rappel de l'histoire.
Oui, c'est important.
Voilà, oui, bien sûr, parce que là, toute la journée, on a entendu que les commémorations françaises, mais c'est bien de parler de l'autre versant.
Voilà, c'est ça. Ben oui, c'est normal. On est en France, donc la France commémore.
Oui.
Mais et en France, il y a des Français qui sont d'autres origines, qui ont une autre origine, notamment d'origine algérienne. Voilà, moi pour vous servir déjà, et que nous devons d'évoquer comme tous les ans ici sur Beurre FM, cette sombre partie de l'histoire.
Cette partie de l'histoire, oui, voilà.
Voilà, alors donc je pense que c'est une transmission à faire également aux jeunes générations, hein, qui, à mon goût, et à peut-être celui de beaucoup, insuffisamment faite, parce que je pense qu'on ne parle pas suffisamment de ce qui s'est passé ce 8 mai 45. Je suis sûre que des jeunes nous écoutent ce soir et ben, sont étonnés, se posent des questions, parce qu'ils méconnaissent cette histoire de l'Algérie.
Les tirailleurs, non, oui, notamment, oui.
Mais oui, ces tirailleurs algériens qui ont donné leur vie pour libérer la France. Peut-être que la France, aujourd'hui, ne serait peut-être pas libérée si ces tirailleurs algériens n'étaient pas présents au front, c'est et qui étaient souvent des chairs à canon, parce qu'ils étaient au premier front.
Et en première ligne.
Voilà,
oui, et
le terrain était rude, le froid, eux qui n'étaient pas acclimatés. Ils viennent d'un continent chaud. Ils se retrouvent dans des endroits où il fait très, très froid. Et on leur a donné des armes. Allez-y, ils sont allés. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, ça il faut aussi le dire, c'est que beaucoup sont partis, bon, pour servir la France, mais pourquoi ? Pourquoi servir un État qui te colonise, qui te soumet et qui t'a spolié de ta terre ? C'est pas possible. Donc tu ne défends pas, tu ne soutiens pas un tel État dans un esprit, entre guillemets, normal. Mais il faut, parce que beaucoup se posent la question, mais pourquoi ils y ont été ? Tiens donc, est-ce qu'ils ont été obligés ? Certainement. Mais, pas que. C'est parce qu'on leur a promis. S'ils étaient nombreux à s'engager dans l'armée à l'époque pour faire fuir le nazisme et pour mettre fin justement à cette guerre sanglante qu'est l'Allemagne nazie et tout ce qu'elle a fait, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, si les Algériens se sont donnés corps et âme, beaucoup sont morts, d'autres sont revenus handicapés. Pourquoi ? Beaucoup parce qu'on leur a promis. Il ne faut pas l'oublier, ça, non plus. Il faut remettre l'histoire dans son contexte.
Dans son contexte.
On leur a promis, on leur a dit. Parce que la France ne partait pas gagnante contre l'Allemagne de l'époque. Eh bien, pour ne pas perdre la guerre et la face, la France a demandé aux Algériens de venir combattre à ses côtés en disant, venez, on vous promet l'indépendance si demain on gagne sur l'Allemagne nazie. Les Algériens ont dit ah, donc la condition c'est bon, les conditions sont actées. La France de l'époque, le gouvernement français a dit oui, venez nous aider à libérer la France du nazisme et on vous promet l'indépendance. Voilà ce qui a été dit. Et voilà. Quand les Algériens se sont rendus sont partis combattre, eh bien, en 45, le jour de la commémoration, en Algérie bien sûr, parce que l'Algérie était sous colonie française, parce qu'il y en a qui disent l'Algérie était française. Moi je dis pas l'Algérie. Oui. Voilà, moi je ne peux pas dire que l'Algérie était française. Je dis l'Algérie était sous colonie française. Oui. Voilà.
Tout à fait. Voilà. Mais c'est la réalité. Hein,
voilà. Alors donc, ceci dit, alors on leur a dit ça. Alors bien sûr qu'en Algérie, le jour de l'armistice, les Français qui vivaient là-bas sont sortis fêter l'armistice, la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ils sont sortis dans les rues avec les drapeaux français. Ils étaient heureux. Et les Algériens attendaient qu'on leur rende leur liberté. Mais on leur a dit, quand ils ont réclamé, on leur a dit non. On a fait la sourde oreille, en fait. Donc ce jour du 8 mai 45, la France est sorti, les Français sont sortis dans les rues de France comme d'Algérie pour fêter l'armistice. Les Algériens sont sortis pacifiquement pour rappeler, pour remémorer cette promesse.
Promesse.
Eh oui. Donc ils sont sortis et ils ont dit, les Français disaient vive la France, libérée. Et les Algériens disaient et vive l'Algérie indépendante, puisqu'on on nous a promis. C'est tout, ouais. Mais sans armes, sans rien. Les Algériens avaient les mains dans les poches, il n'y avait rien. Ils sont sortis avec leur foi en l'indépendance et leur soif de liberté. Et il y a un jeune dont j'ai cité le prénom tout à l'heure, un jeune. Alors j'ai envie de le reciter parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'était le premier qui est tombé. Hein. Voilà, donc il s'appelait Bouzid Sahal, qui avait 22 ans, qui dans la foule, a sorti, a brandi l'emblème algérien. Voilà. Le drapeau vert blanc frappé de l'étoile et du croissant rouge. C'est tout ce qu'il avait, c'était ça son arme, il l'a brandi. Et un policier lui a tiré dessus et il est mort. Et là, c'était le début vraiment de l'escalade. Voilà comment ça s'est passé. Et ce jour-là, 45 000 morts, ne l'oubliez pas. Sétif, Khrata et Guelma. 45 000 morts. Alors, il y avait des gens qui étaient pas armés, des manifestants qu'on prenait comme ça, tu sais, avec des espèces de pelleteuses, et qu'on allait jeter, désolé pour les âmes sensibles, mais ça c'est pour la mémoire, c'est normal. Donc, on prenait des êtres humains, des Algériens, avec des pelleteuses qu'on jetait dans les gorges de Kharata, pour ceux qui connaissent, allez voir sur Facebook, eh bien les gorges de Kharata, ce sont des ravins sans fond. Et on les jetait vivants. Mmh. Au-delà de ceux sur lesquels on a tiré, ceux qu'on a torturés, ceux qu'on a arrêtés. En un jour, hein. Après, c'était le début de l'insurrection, etc. Et on connaît la suite, la bataille d'Alger, etc., etc., qui a duré près de 8 ans. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui, chers amis, le 8 mai, nous sommes le 8 mai 2023, comme tous les ans sur Beurre FM. Eh bien, nous commémorons le 8 mai 45. Et j'aime à dire, moi, je l'ai intitulé l'autre 8 mai 45. Voilà.
C'est bien.
Chacun son 8 mai.
Tout à fait. Oui, mais tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup à pas connaître. Cependant, de l'histoire, de l'histoire algérienne, de ce la France de cette époque-là a fait. Donc, c'est bien de le rappeler.
C'est très important. Ça s'appelle le devoir de mémoire. Alors, oui, certains, n'en déplaise à certains peut-être qui diraient « Oui, mais enfin, il faut tourner la page. » La page est tournée. Elle n'est pas déchirée, mais elle est tournée. Une page d'histoire ne se déchire jamais. Elle se tourne. Même, même en France, on parle des ancêtres, les Gaulois, donc, qui datent de, quand même d'une certaine époque. Donc on ne déchire jamais une histoire. Mais on tourne, voilà. Le nazisme a fait beaucoup de tort, a fait beaucoup de mal. Les colonialismes, quels qu'ils soient, ont fait beaucoup de tort et beaucoup de mal. Il y a eu des tortures et des massacres en Algérie. Il y a eu 1,5 million de martyrs de Shoheda, et ça, il ne faut pas les oublier. Parce que si on oublie, si aujourd'hui, nous, ici, on ne commémore pas le 8 mai 45, comme il se doit, le massacre de Sétif, Guelma, Kharata, 45 000 morts, si on ne se souvient pas de cette période, et si on ne remémore pas, et si on ne remet pas ça à la surface pour que les jeunes puissent connaître leur histoire, mais c'est juste pas possible. Comment se regarder dans un miroir?
Bien sûr.
C'est important. Il faut que les jeunes, faut transmettre.
Il faut avancer. Il faut connaître son passé.
Voilà, exactement. Ne pars pas, Fatima. Il y a une petite pause. On a Zoubir aussi. Et les autres, je vous attends. Chers amis, si vous avez aussi à dire sur cette histoire de l'Algérie, ces massacres, je pense que vos parents ou vos grands-parents, peut-être, vous en ont dit quelques bribes. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup, malheureusement. Il y a de la pudeur, etc. Mais venez nous dire ce que vous savez, ce qui vous a été transmis surtout. Et venez poser vos questions. On vous attend au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000. J'aimerais bien voir ce standard. Disons, s'illuminer de ses belles couleurs. Donc, on vous attend. Oui, on est là. Je pense que certains, beaucoup même, pensent qu'aujourd'hui, eh bien, comme le 1er mai, bah, c'est férié, il n'y a pas d'émission. Non, on est vraiment là, on est vraiment en direct. Nous sommes vraiment le 8 mai, aujourd'hui 2023, donc on est en direct, vous pouvez appeler. Et ce soir, eh bien, nous commémorons cet autre 8 mai 45. Ça s'est passé en Algérie, un massacre sans nom, 45 000 morts, Sétif, Guelma, Kharata. Alors, on reprend avec Fatima. Fatima, reste avec nous. On prend Zoubir.
Je reste avec toi.
On prend Zoubir, ma chérie, avec nous aussi.
Il n'y a pas de souci.
Zoubir, bonsoir Zoubir.
Bonsoir.
Bonsoir Zoubir, bienvenue à toi. Tu m'entends? Ah, je n'entends plus Zoubir. Allô? Bon. Fatima, on continue alors, ma chérie.
Oui.
Alors, est-ce que toi, Quand est-ce que tu as appris, si un jour tu as connu cette histoire, je sais pas. Est-ce qu'on t'en a parlé dans ta famille? On en parle dans ta famille?
Non, moi j'ai appris ça au lycée. Tu sais, nos parents et grands-parents, ils sont, comment te dire, c'est pas une période qu'ils aiment évoquer, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie, parce que moi, je sais que mon grand-père a eu ses enfants étaient... c'était des combattants.
Oui. Est-ce que tu peux éteindre?
Voilà, qui ont été aussi tués, torturés aussi par l'armée française de l'époque. Mon grand-père aussi avait été torturé.
Oui. Ton grand-père a été torturé?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Parce que son fils était dans le Jebel Merolo, tu sais.
Oui, c'était un Moudjahed.
C'était
un Moudjahed. Un Moudjahed. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelait.
Je cherchais le mot.
Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Oui, un combattant,
voilà,
Moudjahed.
Malheureusement, c'était une époque où il y avait beaucoup de délations. Donc, ce qui fait que mon grand-père.
Ah oui, c'est vrai. Ça,
des délations. Voilà, a été enlevé donc, par l'armée française, torturé malheureusement. Donc oui. Voilà, et bon, tu sais, il ressort de là.
Et ton grand-père, il est revenu de front?
Oui, bien sûr, il est revenu. Mon grand-père, il était né en 1904, là.
D'accord. il parlait de non, il parlait pas beaucoup.
Non, mais tu sais.
Ouais. Ils sont très discrets, ces personnes, vraiment dans l'air.
C'était des choses assez monstrueuses.
Oui.
Voilà.
Et oui, les tortures, tout ça, ben oui, il faut en parler.
La torture, elle est, voilà. J'ai envie de te dire aussi des viols.
Oui, c'est ça.
Des abominations, il n'y a pas que les femmes qui se faisaient violer, les hommes aussi.
Oui. Moi, j'ai envie de te poser cette question aussi. Est-ce que toi, tu posais des questions? Parce que moi, je veux bien que toi, qu'on n'en parle pas dans la famille. Mais je vais poser aussi la question à nos amis auditeurs, auditrices, jeunes, comme toi, qui n'avaient pas connu cette époque. Et est-ce que vous posez des questions? Parce que si les parents ne parlent pas ou les grands-parents ne parlent pas, peut-être qu'il faut aller chercher aussi. Est-ce que vous intéressez?
Regarde, Vanessa, moi, j'ai commencé à poser des questions à partir du moment où, au lycée, au collège ou au lycée, on commençait à apprendre l'histoire de l'AG. C'est-à-dire
au lycée en France?
Oui, bien sûr, en France.
C'est une autre version.
Non, mais souvent, c'est à partir de ce moment-là, où, quand on a commencé à parler de la guerre d'Algérie et tout ça, donc on a commencé uniquement à ce moment-là à poser des questions à nos parents.
D'accord. Et ils répondaient?
Oui, mais tu sais, c'est comme un sujet tabou.
Oui, c'est parce que ça remue dans la souffrance.
Ça remue énormément parce qu'ils ont, ils ont perdu beaucoup d'enfants. Moi, je sais que ma grand-mère, mon grand-père, mes grands-parents maternels ont perdu une grande partie de leurs enfants.
C'est vrai. Fatima, tu pars pas, ma chérie. On va peut-être faire un petit débat. Tu pars pas. On a Mohamed. Voilà, on a Mohamed. Merci, Fatima. Mohamed qui nous appelle de Sevran. Mohamed, pardon, c'est Mohamed, c'est ça?
Mohamed, non.
Mohamed, ah oui, parce que il manquait une lettre. Alors, Mohamed, bienvenue à toi, Mohamed. Bienvenue à toi.
Merci. J'ai appelé l'émission, je vois que ça continue. Moi, j'ai appelé depuis un certain temps, quand j'ai changé de boulot, je te rappelle.
Mohamed, est-ce que tu peux éteindre ta radio ou le haut-parleur, s'il te plaît?
Oui, c'est bon. Ça, c'est bon?
Oui, parce qu'on s'entendait pas. Ça passait pas très bien. Alors.
Non?
Donc.
Moi, c'est par rapport à l'histoire, en fin de compte. Moi, j'ai grandi en Algérie. Donc, l'histoire, on l'a eu dans les livres aussi. Puis, les commémorations du 8 mai, entre autres. Et comme je rejoins Fatima, par rapport à la famille. En fin de compte, ils sont nés en 36, Et on en parle toujours. En fin de compte, on va souvent en Algérie. Donc ça fait...
Oui.
Il y a beaucoup de, entre guillemets, qu'on dit patriotes ou... On parle de la guerre d'Algérie, on en parle toujours. Il y a certains anciens de 87 ans et plus... Après, derrière, on dit événement d'Algérie, mais voilà, c'était une guerre d'Algérie.
C'était la guerre, oui.
Une guerre. Il y avait une
pendant longtemps, c'était une guerre à laquelle on ne donnait pas de nom. C'est vrai.
Tout à fait. Et on n'a pas, le 8 mai, en fin de compte, on n'a pas reconnu les soldats revenus de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, voilà. Donc c'est.
Sans oublier la Première Guerre mondiale à laquelle les Algériens avaient déjà à l'époque participé. Voilà. Première et seconde guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, c'était, la promesse, c'était l'indépendance.
Tout à fait, c'est ça. C'est ce qu'on nous disait, nos grands-parents, nos parents, en fin de compte.
Et toi, tu as donc dans ta famille, comme Fatima, des grands-parents
Moi,
qui
j'ai
ont
un oncle
participé.
Et un père qui sont toujours vivants, mais ils en parlent comme si c'était hier, hein, dans tous les cas. Moi, j'ai un oncle qui est revenu se retrouver parce qu'on a, entre guillemets, moi je dis assassiné ces des jeunes de 16 ans, 17 ans, qui étaient dans le mouvement, en fin de compte, dans le mouvement révolutionnaire d'Algérie. Oui. Donc, ils ont tué ses copains à lui. Il s'est retrouvé à 16 ans à Alger. Après, au bout de... il fallait attendre sa majorité pour le faire revenir. Voilà. Ce qu'il nous racontait jusqu'en mars dernier, on était en Algérie pour les souvenirs, enfin, pour ses souvenirs à lui. Il est encore de ce monde, dans tous les cas.
Ah oui. C'est important parce que ces personnages, moi je les appelle des personnages, ces moudjahidines qui sont encore vivants, pour ceux qui sont morts, shuhada alayhi rahmoum salam, ceux qui sont vivants, profiter de leur présence parce que c'est des livres
tout
d'histoire.
À fait. Tout à fait. Mais lui, il n'a pas, comme il dit, il n'a pas couru pour la médaille, il est arrivé à 16 ans, on peut dire à 18 ans en France, il a jamais changé. Nous, franchement, j'ai la société française, la double nationalité, comme la majorité des Algériens en France, il ne faut pas se le cacher. Pour le travail, pour plein de choses, en fin de compte, on le fait. Mais lui, il vit en France, il vit dans le sud de la France, il est venu, il est reparti, il repart en Algérie souvent, il a sa nationalité, il m'a dit, je ne peux pas revenir à la, peut dire, reprendre la nationalité française, pour ce qu'ils nous ont fait. Ah, mais c'est un truc de fou, en fin de compte. Né à 36,
ils ont vécu des choses atroces, il faut le dire. Et c'est pour ça que moi je suis heureuse de t'entendre ce soir parce que tu as été chercher l'information, tu as posé questions et dans ta famille on en parle et ça c'est formidable parce qu'il y a une transmission. Je sais pas si tu as des enfants, est-ce que tu en parles aussi?
Oui, bien sûr,
parce que ça fait partie du devoir de mémoire, c'est très important.
Tout à fait,
voilà,
tout à fait.
Exactement. Mais c'est important de transmettre, mais beaucoup ne savent pas à quel point cette guerre d'Algérie a été sanglante.
Tout à fait. Il y a beaucoup de Français qui disent que ça a fait du mal pour des deux côtés, dans tous les cas. Mais les Algériens, ils ont souffert, comme il dit, on n'était pas considérés. Moi, que nous disais, si pour certains qui ne se battaient pour la liberté, pour leur liberté, il a dit si on nous a éduqués et nous ont laissé la chance d'apprendre à lire et à écrire, il a dit aucune chance. Donc, s'il y avait ça, tout ça, peut-être ça aurait changé des choses. Mais on n'était que des, comme ils appelaient, des indigènes. Donc, il faut dire les mots. Donc,
Alors, je ne sais pas. Moi, je dirais, je ne sais pas. Je ne sais pas si réellement... parce qu'on dit souvent que si la France de l'époque, de l'époque avait donné des droits aux Algériens, les mêmes que les Français, à part entière, peut-être que les choses auraient été différentes. Personnellement, je dirais, je ne sais pas. Connaissant le peuple algérien, comme connaissant tous les peuples de la Terre, bien sûr, comme tous les peuples, eh bien, qui veulent être libres, c'est normal. Un être humain, on dit que tout être humain naît libre, les êtres humains naissent tous libres et égaux, c'est l'oreille fronton, etc. Alors, ça reste des paroles, mais c'est une réalité. C'est vrai qu'un être humain veut être libre, il veut pas être soumis, il veut pas être sous le joug d'un colonisateur ou d'un esclavagiste ou tout ce qu'on veut. Les gens ont donné de leur vie pour se libérer de toutes les époques. Donc c'est pour ça, pour répondre à ce que tu viens de dire, très honnêtement, je ne pense pas. Moi personnellement, je ne pense pas que les Algériens, si la France leur avait dit, allez, on vous donne les mêmes droits que les Français, vous êtes Français. Ben non, ils n'étaient pas français, ils étaient algériens déjà. Voilà, on n'est quand même pas schizophrène. On est, voilà. nous, par exemple, qui vivons en France, on est français, on est en France, ou pas, mais on a choisi de prendre aussi, là, on est binational, puisque on a binationaux, pardon, puisque nous avons deux nationalités, on est fiers. Bien sûr, on aime les deux pays parce que l'histoire, elle tourne et elle avance. Et la France d'aujourd'hui n'est pas la France colonialiste d'hier. Parce que la France d'aujourd'hui, on l'aime. Mais la France colonisatrice d'avant 62, je ne sais pas si beaucoup d'Algériens l'aimaient, hein, très honnêtement. Parce que qui aime, sont tortionnaires, quoi, tu vois. Mais qu'on dise que les Algériens auraient accepté, non.
C'est une question,
mais connaissant la fierté des Algériens, même si on leur aurait mis le ciel à leurs pieds, tiens, vous aurez plus que les Français, plus de droits que les Français de souche. Ils auraient dit non, on veut être libre, c'est tout, laissez-nous tranquille. On veut être dans la misère, mais la misère. Comment on dit.
Oui. Ah, mais je te rejoins dans le sens. Regarde, dans l'histoire, c'est une chose, les Algériens, partout où on va, on essaye on se montre facilement, on parle facilement, on n'aime pas la justice, on n'aime pas.
Et l'Algérie est un pays qui défend de tout temps les peuples opprimés, de tout temps. D'ailleurs, Mandela, son premier voyage était en Algérie, et était très proche des Algériens parce qu'ils avaient, ils avaient le même combat à des périodes différentes, mais. Les Algériens ont beaucoup soutenu la cause de Nelson Mandela et d'ailleurs les Algériens sont des exemples pour beaucoup de peuples en voie de libération et qui veulent se libérer dans le monde.
C'est vrai.
Et Fidel Castro entre autres et d'autres.
En Afrique, l'Algérie c'était même avant 62, avant d'être indépendant, en fin de compte, comme c'est la Chine qui a reconnu la première nation qui a reconnu l'Algérie.
Oui, et puis, l'Algérie est un exemple. C'est-à-dire que l'Algérie a dérangé beaucoup, et peut-être dérange encore, peut-être, certains. Pourquoi ? Parce que c'est l'exemple. C'est l'exemple de bravoure. C'est-à-dire, oui, quand on veut, on peut. On veut sa libération, on veut se libérer, mais on peut. C'est possible, puisqu'on l'a fait. On n'avait pas d'armes, on n'avait rien. 132 ans de colonisation, tu n'as rien, parce que tu peux pas fabriquer des armes. Où ? Y a rien qui t'appartient, on t'a pris même tes terres. Alors tu vois, t'as rien. Avec du sable, tu fais pas grand-chose. Donc, comme t'as rien, mais si, ils avaient une chose. L'arme la plus redoutable, c'est la foi, hein, vraiment, et puis la volonté, tu sais. Et c'est pour ça qu'ils y sont allés comme ça, et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Comme c'est un exemple, c'est pour ça que l'Algérie fait un petit peu... Comment dire, certains font grise mine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit Algérien, Algérie, alors les gens, ils ne savent pas pourquoi, mais c'est un pays qui attire pas beaucoup. Quand on dit Algérien, les gens, tu vois, ils se pincent les lèvres, etc. Mais en réalité, c'est parce que c'est un peuple qui a montré que c'est possible. Que c'est possible de se libérer, d'être libre et de gagner un combat, même si on part perdant. Et l'Arabi Ben Mehdi, Allah yarhamou yissaleh, a laissé une phrase de la bataille d'Alger. C'était un grand héros de la bataille d'Alger. L'Arabi Ben Mehdi, Allah yarhamou, qui a dit, quand il a été arrêté par l'armée de Bijar, les bérets verts, donc les paras, et qui a été pendu, il a été pendu. Après, ils ont dit, non, il s'est suicidé. L'Arabi Ben Mehdi, croyant comme il était, va se suicider. Pourquoi se suicider ? Et en plus, se suicider, les mains liées dans le dos, avec les pieds liés, pendus. Non, mais franchement, ils auraient pu trouver une autre version. Et quand la journaliste lui a posé la question, mais quand il a été arrêté, vous n'avez pas honte d'envoyer des femmes avec des couffins dedans, des petites bombinettes ? Il a dit, donnez-nous vos chars, vos fusils, vos avions. Eh bien, on échangera bien avec nos petits couffins, nos bombinettes. Voilà. Alors ne pars pas, Mohamed. On a Martine juste après aussi. Elle part pas parce que je vais la prendre aussi juste après. Ne partez pas, on a une petite pause, elle est très courte, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000 ce soir, et bien chers amis, l'autre 8 mai 45, massacre de Sétif, Guelma et Kharata, 45 000 morts le 8 mai 45 en Algérie, le jour de la commémoration de l'armistice en France, en Algérie, et bien les Algériens l'ont enfin, pas fêté, mais ils l'ont passé dans un bain de sang. Et tout de suite, eh bien, ne pars pas, Mohamed, hein, je te reprends juste après. On a Martine qui nous appelle du 60.
Allô ?
Oui, bonsoir Martine.
Bonsoir.
Tu nous appelles de quelle ville, Martine ?
Montataire, dans l'Oise.
Dans l'Oise, ah, je connais.
À côté de Creil.
Ah oui, Creil, je connais, mais Montataire, je ne connaissais pas.
Juste à côté.
D'accord, très bien. Bienvenue à toi.
Merci. Alors, ben moi j'appelle parce que bon, je t'écoute très souvent.
Oui.
Et je viens d'allumer la radio là, et j'ai entendu donc qu'il était question de la guerre d'Algérie et des massacres de...
Du 8 mai 45, oui, parce qu'aujourd'hui voilà. C'est mieux.
Oui. Et eh bien moi je, si tu veux, ça me fait quelque chose au cœur parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis française, d'origine française, voilà.
Oui.
J'avais 9 ans quand la guerre d'Algérie a pris fin, donc j'ai 70 ans.
Oui.
Et ça m'a toujours, toujours, toujours tenu à cœur l'horreur de cette guerre. Oui. J'irai pas par quatre chemins. La France n'avait rien à faire en Algérie.
Oui.
Absolument rien. Le grand drame, c'est 1830 et cette idée d'avoir conquis écrasé le peuple algérien. Moi, je le dis tout de go, j'ai honte. J'ai honte de ce que les Français ont fait là-bas. Vraiment.
C'est très touchant ce que tu dis, vraiment. Et on sent que tu parles avec ton cœur, avec et avec tes tripes, j'ai envie de dire,
oui,
Martine.
Oui,
voilà,
oui.
Bravo, parce que voilà, provenant d'une personne qui n'a aucun lien avec l'Algérie, je trouve ça juste magnifique. Ça veut dire que tu es juste humaine, tout simplement.
Ben, mais, exactement.
C'est ça. Mais honte, j'ai envie de te dire non. Tu n'as pas à avoir honte, Martine. Tu n'as pas à avoir honte. Non, non. Tu sais. Tout à l'heure, je disais la page n'est jamais déchirée, mais la page est tournée. Et tu n'as pas à avoir honte de ce qui a été commis à ton. Je veux dire, tu n'y es pour rien. Tu dis, j'ai 70 ans.
Oui, bien sûr.
Et même si à l'époque, tu étais en âge de pouvoir t'exprimer politiquement, etc., comme beaucoup l'ont fait à l'époque, mais tu n'avais pas les moyens de, disons, de raisonner les personnes qui ne t'écouteraient pas, de toute façon.
Si j'avais eu l'âge, j'aurais été sûrement porteuse de valise.
Alors ça, vraiment...
Alors ça, oui, c'est sûr.
Aïe, 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 Martine. Tu sais, Martine, et il y a beaucoup de... C'est pour ça que tu ne peux pas avoir honte, parce qu'il y a beaucoup de Français de l'époque, ben justement, qui ont combattu et qui ont aidé leurs frères en humanité, les Algériens. Ils étaient Français. Il y a eu des morts français qui sont morts pour l'Algérie indépendante. Maurice Audin, dont on n'a jamais retrouvé le corps.
Et d'autres.
J'ai honte d'oublier les noms parce que je les ai sur le bout de la langue et je donnerai les noms de Français.
Il y a le comédien Jacques Rispal qui est décédé depuis, qui était porteur de valise.
Oui.
Oh, moi, j'oublie tous les noms. J'oublie tous les noms. Et bien sûr. Moi, ce que je trouve, c'est que la plupart des Français ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé là-bas. Tu sais, moi, j'ai lu... Je sais pas... voilà, moi, j'avais 9 ans, j'avais 3 oncles qui étaient en Algérie. J'étais petite, mais moi, je me souviens du chagrin de ma grand-mère, de sa peur.
Oui.
Ils sont revenus.
Oui.
Moi, dans ma classe, j'avais 2-3 copines parce qu'il n'y avait pas, beaucoup de... C'était des Algériennes qui étaient en France depuis longtemps.
Voilà.
Et une de mes copines que j'adorais, qui était jolie comme tout, qui s'appelait Naïma. Et à l'époque, moi, c'était ma copine. Et le truc des autres, c'était « Ah, tu joues avec elle, tu parles avec elle ?»
Ouais.
Tu vois
ouais.
Moi, quand on mais j'étais petite, mais j'écoutais beaucoup et je comprenais que les Algériens avaient raison.
C'est fou.
Tu vois?
Déjà,
ah,
oui, oui, déjà très tôt. Tout, ouais.
J'ai toujours ressenti, ne serait-ce que, tu sais, moi j'aimais bien écouter ce que disaient les gens. Alors, il y avait une dame pas loin de chez moi, une jeune femme, qui était mariée à un Algérien. Et j'entendais les monstruosités que les gens disaient sur elle, tu vois.
Oui, oui.
Et c'était, et pour moi, je me disais que c'était pas possible. Et je, y avait 5 colonnes à la une à l'époque, j'étais petite. Mmh. Et moi, j'aimais bien regarder parce que ça m'intéressait.
Bien
et
sûr.
Ça, toujours, toujours, toujours. Là, il y a pas longtemps, j'ai acheté en DVD une série justement qui était passée, un documentaire magnifique sur la guerre d'Algérie. Et quand je vois ces horreurs et les tortures, je me dis c'est pas possible que des jeunes appelés aient pu obéir au fait de torturer.
Bah, ceux qui ont torturé, c'était pas souvent des appelés. Les appelés.
Ah, il y en avait quand même. Hein,
peut-être,
Vanessa.
Mais.
Ah, si, il y en avait.
Peut-être, oui, oui.
Il y en avait.
Mais beaucoup.
Il y avait, justement.
Ouais.
Et tu te dis, ouais. Voilà, où peut aller l'humain, où peut aller l'humain pour en arriver là. J'ai déjà vu des photos, ça me fait pleurer, ça me rend malade.
Oui.
Quand j'étais petite, plus petite, j'ai vu des photos, j'ai vu des choses qui m'ont rendu. Mais vraiment d'une énorme tristesse. Et pour moi, le peuple algérien, en effet, qui s'est défendu, voilà, c'est des héros. Et voilà, et je les admire.
Écoute, c'est magnifique. Moi, je suis tout émue à t'écouter. Ça me touche profondément et personnellement.
Je suis émue de te dire cela parce que
je suis très touchée. Il y a beaucoup d'humanité. Mais tu as des choses et tu peux les dire ce soir. Mais parce que tout simplement, il y a de l'humanité en toi. Et il y a de l'empathie. Et c'est ce qu'on appelle l'empathie. Mais vraiment,
bien sûr.
Et tout à l'heure, tu parlais de ces personnes qui ont soutenu ce combat, hein, mmh, voilà. Mmh. Et entre autres, Francis Janson, qui est connu pour son engagement.
Oui, bien sûr. Hein,
voilà, mmh. qui était philosophe, oui, qui était français,
oui,
à part entière,
fait,
voilà.
Fait,
qui
oui.
n'avait aucun lien avec l'Algérie, puisqu'il est né en France, à Bordeaux, mmh, à l'époque, mmh. mais qui était en faveur de la libération de l'Algérie, mmh. et qui s'est engagé, justement, pour cette libération. Tu parlais de porteur de valise, entre autres. Il en fait entièrement partie, lui, et puis tout son réseau, parce qu'il y avait il y avait tout un réseau ici en France.
Bien sûr, oui, oui.
Et oui, il y avait des Français qui étaient très courageux, il faut pas les oublier, hein, très courageux.
Non,
soutenir une cause qui n'est pas la leur, juste par humanité et par fraternité en humanité ou tout ce qu'on veut. Mais je trouve ça d'une noblesse, c'est juste.
Ah oui, absolument.
C'est vrai.
Absolument.
Gratuitement.
Mais bon, si tu veux, je me dis, c'est quand même une toute petite minorité, parce que, tu sais, quand on habite dans des petites villes, et qu'on. Je me dis, les gens ne. Moi, je me suis disputée avec des gens de ma famille, hein.
Ah oui.
Ah oui, je me suis disputée avec des gens de ma famille. J'ai dit, mais attendez, quand les nazis sont restés 4 ans en France, on les a chassés.
Oui.
C'était normal.
Mm-hmm,
Alors les Français n'avaient rien à faire là-bas. Et d'autant plus quand on sait la façon dont les Algériens étaient traités. Ce n'est pas admissible.
C'est ça, exactement.
Ce n'est pas admissible. Moi, je ne peux pas admettre ça.
Mais oui, tu as raison, parce que souvent on entend « Oui, mais enfin, bon, les Algériens, non, ils n'étaient pas maltraités, mais si, on te prend ta terre, on te... »
Mais bien sûr, moi j'ai tellement lu
pas
de livres, j'ai tellement vu de documentaires, c'est horrible, terrible, et je dis aussi, moi, que c'est une honte, et là je maintiens que c'est une honte, que le gouvernement français de l'époque ait envoyé ses enfants se faire tuer pour un combat qui, de toute façon, était perdu d'avance. Mmh. Parce que c'était sûr que les Algériens allaient se libérer.
Et à l'époque, c'était la gauche qui était au pouvoir. Alors, je dis quand
oui,
je dis ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui.
Hein, des fois.
Mais voilà. Et je me dis, tous ces jeunes. Bon, moi, je me dis. J'avais 9 ans. Et puis, mais je suis sûre, je me dis. Moi j'aurais pas pu. J'aurais jamais pu. J'aurais refusé. Je dis, moi, j'espère que j'aurais été une porteuse de valises. Mais je me dis que comment la France a pu envoyer ses enfants se faire tuer dans une guerre inutile, perdue d'avance, parce que c'était perdu d'avance, et se sont entêtés. Pour moi, c'est une monstruosité.
Non, mais c'est tout à fait ça, c'est bien expliqué, perdu d'avance, absolument, oui, puisqu'il n'y avait pas possibilité, en tout cas, de retour en arrière, c'était pas possible.
Mais bien sûr, il le savait très bien.
Oui.
Il le savait très bien.
Mais oui.
Et c'est quelque chose, moi, qui me. Même maintenant, tu vois, je me suis toujours intéressée à ça et j'ai 70 ans, je ne change pas, je.
Mon entourage, c'est magnifique.
C'est ce que je pense. Ouais. Les Algériens que je connais savent, tout le monde sait ce que je pense. Dans les gens que je connais, il n'y a pas de problème. C'est comme la France n'avait rien à faire.
Il y avait des appelés, parce qu'il y a des reportages qu'on peut regarder, qu'on peut retrouver sur YouTube, sur le site de l'INA. Et voilà, il y a des jeunes qui étaient jeunes à l'époque, jeunes appelés. Et qui témoignent, oui, et leur témoignage est vraiment éprouvant à regarder. Hein.
Oui.
Eh bien, c'est des personnes qui disaient on n'avait rien à faire là-bas, nous on voulait pas y aller, on se posait des questions, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il y en a qui disent qu'on leur a menti, même parce que c'était des jeunes. Hein. Donc certains leur avaient menti, on leur disait non, c'est pour mettre de l'ordre, pour aider la police, pour mettre
bien
de l'ordre.
Sûr, hein.
Il y a pas grand-chose. Après, une fois arrivés là-bas, on leur donnait un fusil, on disait allez vas-y, on les mettait au front.
Mais bien sûr.
Ils connaissaient pas le terrain. Donc ils étaient aussi en danger, ils connaissaient pas le terrain, ils avaient pas envie d'y être surtout.
Mais
parce
qu'ils
défendaient quoi? Ils défendaient rien du tout, ils défendaient pas leur maison. Mais qu'est-ce qu'on faisait ici sur un continent qui n'est pas qui n'a rien à voir, qu'on connaît pas, qui n'est pas le nôtre.
Exactement.
Et donc ils étaient pas motivés déjà.
Moi j'avais un oncle qui avait 19 ans à l'époque.
Ah ouais.
Et qui s'est toujours demandé ce qu'il allait faire là-bas. Il est resté 28 mois.
C'est terrible
ce qu'il a vu, parce que il en parle quand des horreurs qu'il a vues. C'est pas le cas de tous les membres de ma famille, mais en tout cas je peux me disputer, je l'ai déjà fait, je ne change pas d'avis, c'est pour moi c'est innommable.
Tu as des enfants, Martine?
Moi, j'ai un fils. Oui,
d'accord. Et ton fils, il pense quoi de tout ça? Tu veux vous
mon
en parler?
Oui. Oh, bah, il pense la même chose que moi, bien
magnifique.
Sûr.
Magnifique.
Bah, il a 51 ans, mon fils.
Alors, tu vas nous en parler juste après. On a une petite pause, elle est très courte. Ne pars pas, Martine, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, chers amis. Et on reprend avec Martine. Martine qui nous appelle de près de Creil. J'ai du mal à dire le nom de ta ville. Près de Creil. Oui, alors Martine, on parlait de ton fils qui a 50 ans et donc qui, tu dis, il est comme moi, mon fils. Donc il a les mêmes idées. Et comment c'est venu?
Parce que quand il était. Moi, je suis quelqu'un d'hyper sensible et tout ce qui est fait contre l'humain par d'autres humains m'a toujours révolté. Et bien sûr, petit, moi j'en ai parlé à mon fils, bien sûr, de tout. Bien sûr, je lui en ai parlé. Il sait à quoi s'en tenir à ce niveau-là. Il sait très bien, il est comme moi, et heureusement, hein, parce que s'il était autrement, ça n'irait pas. Hein. Tu sais.
J'aime bien, ça n'irait pas.
Non, ça pourrait vraiment pas aller, même si c'est mon fils, mais c'est pas possible.
Oui.
C'est pas possible. Mais tout, voilà, la guerre d'Indochine, c'était pareil, la guerre du Vietnam, tout. Enfin, je sais pas, tout ce que les Européens se sont permis, moi je peux pas admettre.
On voit que tu t'es intéressé, parce que très honnêtement, peu de gens, même chez les Algériens, il y a des jeunes qui méconnaissent leur histoire, qui savent qu'il y a une guerre. Qui savent que c'était moche, une guerre c'est toujours moche, etc. Mais qui ne connaissent pas le fond de l'histoire et qui ne connaissent pas vraiment les détails qui sont très importants.
Bien sûr.
Et les tortures, par exemple, qui sont quelque chose d'important, c'est plus qu'un détail. Mais tu vois, toi, tu t'es intéressé parce que c'est ton.
Exactement.
Voilà, c'est ton humanité, c'est toi, c'est ta sensibilité. Et puis ta soif de justice parce que tu es une femme juste. Voilà.
Ouais, voilà. Et moi, je peux pas supporter l'injustice et ça pour moi c'était pas possible, quoi. Moi, tu sais, quand j'étais petite, j'habitais dans la ville où j'habite, il y avait un café qui s'appelait le Nil Bar, qui était tenu par un monsieur algérien.
Oui.
Et quand j'allais chez ma grand-mère, quand je passais devant, il y avait c'était au moment de la guerre d'Algérie, hein. Finalement, il y avait de la musique arabe, et moi je m'arrêtais pour écouter.
Ah oui, déjà. Ah, ouais. Ah, c'est fou.
Ouais, et oui bien sûr. Et je savais ce qui se passait en Algérie, j'avais mes copines algériennes et j'ai toujours très bien compris. Mm-hmm. Toujours très bien compris ce qui se passait et que tout ça était complètement inhumain.
Ouais.
C'est pas tolérable. Oui. L'occupation de l'Algérie n'a jamais été tolérable pour moi.
Oui, quelle qu'elle soit, c'est vrai.
Ah oui, c'est pas possible.
C'est vrai. Comment on peut soumettre un peuple ? C'est juste pas possible. C'est vrai que, bon, ça dépasse, disons, un esprit qui est bien dans son bocal. Parce qu'on se dit que ça peut traverser. L'idée comme ça la tête d'un jour d'une personne en se disant tiens, si on allait coloniser ou mettre en état d'esclavage des gens, des êtres humains, c'est incroyable, mais ça existe, hein, c'est terrible, hein, terrifiant. Oui. ça existait.
C'est pour ça que j'ai aussi, par exemple, une immense sympathie, enfin je sais pas comment je peux appeler ça, empathie pour par exemple, alors ça c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur énormément. C'est notamment une grande passion pour les Indiens, notamment d'Amérique du Nord.
Ah oui.
Ce qu'on leur a fait, ce que les Européens leur ont fait, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Je peux pas passer des trucs comme ça. Je peux pas.
Oui.
Et là, l'Algérie, forcément, ça, comme je connais des Algériens. J'ai travaillé beaucoup avec des jeunes et tout ça, et c'est vrai que des fois moi je leur en parlais. Ils savaient pas trop, les plus jeunes.
Ah oui. Oui, ils savent pas. C'est vrai que les jeunes ne connaissent pas leur histoire. Est-ce que je peux te mettre en attente? J'ai envie qu'on fasse un débat. Peut-être que Méziane viendra nous rejoindre. Mmh. C'est certain. Mmh. Tel que je le connais. C'est un sujet qui, je pense, qui le touche. On a Fatima Destin aussi. Donc, on fera un petit débat, si tu veux bien, Martine.
Oui.
Formidable. Donc, ne pars pas. On va reprendre... Alors, qui que quoi, donc, où? Alors, Fatima, elle est toujours là, Destin?
Oui, je suis toujours avec toi.
Fatima, tu as entendu le témoignage de notre amie Martine?
De Martine, oui, tout à fait, que je salue.
Oui.
Et je trouve très bien que, justement, des Français, comme elle dit, donnent leur version de l'histoire, qu'on entende, pas que ceux qui disent oui, mais eux. Non, elle dit les choses telles qu'elles sont, et je trouve ça bien.
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Puis Martine, c'est un témoignage qui est assez touchant. Et surtout provenant d'une personne qui n'a aucun lien, elle l'a dit, avec l'Algérie ou avec les Algériens. Le seul lien qu'elle a, et je dirais que c'est le plus fort et le plus beau des liens, eh bien, c'est son lien l'humanité, la fraternité, la solidarité, celle qu'on prône tous les soirs ici sur Beurre FM. Exactement. Puisque tous les soirs, on parle de solidarité entre les êtres humains. et qu'on est tous frères en humanité.
En humanité.
Et je suis sûre que Martine a entendu le message, n'est-ce pas Martine? Que chaque jour tu l'entends sur Beurre FM, nous sommes frères en humanité.
Exactement.
Voilà. Eh bien moi ça me conforte encore dans l'idée que nous
que
la fraternité eh bien elle est là et elle est solide parce que tu t'appelles Martine, tu es née en France et tu as des origines françaises et rien d'autre, mais tu es ma sœur en humanité.
Mais
donc c'est ça qui est important. Parce que parfois, il y a des personnes qui s'appellent frères, sœurs d'une même religion, et tu m'entends les reprendre en disant non, si je suis ta sœur et ta sœur, ok, mais je suis la sœur de tout être humain, d'une personne juive, chrétienne, bouddhiste.
Tout à fait.
Parce que nous sommes frères en humanité si on regarde dans la même direction.
Tout à fait.
C'est ça. Et tu l'as prouvé ce soir, Martine, dans ton témoignage, qui vraiment, ce témoignage va toucher beaucoup, beaucoup, crois-moi, beaucoup de nos auditeurs. Moi, je reçois des messages, vraiment.
D'accord, c'est gentil.
Mais oui, parce que les gens ont besoin de savoir qu'ils sont aimés. Tu sais, en France, en ce moment, ils règnent. Malheureusement, c'est vrai que c'est un pays qu'on aime, la France. C'est notre pays. Et d'ailleurs, si on ne l'aimait pas, on n'y serait pas. On aime la France. Et donc, on se sent entièrement tous français. On a des origines, mais on se sent français. Mais d'un côté, il règne un climat un peu compliqué pour certains. Tu comprends?
Oui.
Assez compliqué, c'est ça.
Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression, donc, depuis le temps, que pour beaucoup, malheureusement, on a l'impression que cette guerre n'est pas vraiment finie. C'est incroyable, quand même.
Ben, c'est incroyable ce que tu dis, et c'est bien de le dire encore une fois. Et Fatima, je pense qu'elle est d'accord avec nous. C'est que, on peut... Comment dire? Je sais pas si je peux m'avancer à le dire, mais je vais le dire quand même. Que les Algériens se sentent, si tu veux, moins aimés, j'ai envie de dire, et plus pointés comme ça du doigt que d'autres communautés ou d'autres nationalités, même maghrébines.
Ah oui.
N'est-ce pas?
Oui,
maghrébines, africaines, mais Algériens, c'est... Je sais pas, ils ont du mal encore à...
Ah oui, mais tout à fait.
Voilà, à accepter, ne serait-ce que la sonorisation.
Bien sûr. Oui, c'est quand Mitterrand avait dit l'Algérie, c'est la France.
Oui.
C'est grave quand même.
Ah ouais. C'est pour ça que je disais la gauche à l'époque.
Oui, c'était grave quand même.
Eh oui. C'est terrifiant. Et oui, parce qu'à l'époque, je pense que les gens qui sont dans tous les pouvoirs dans le monde, c'est comme ça. Mais je pense qu'ils sont tellement éloignés du peuple. Ils sont, si tu veux, c'est une autre planète. Moi, les politiciens, pour moi, tu vois, ceux qui font de la politique, c'est pour ça que la politique, pour moi, c'est un monde tellement abscon que je ne veux vraiment pas mettre mon bout de nez dedans.
Je
ne veux pas. Je n'aime pas le monde de la politique. Donc, je pense que la politique et les populations, ce sont deux mondes parallèles. Et bien, c'est pour ça qu'ils connaissent tellement mal les peuples. Puisqu'à l'époque, que ce soit Mitterrand ou le gouvernement de l'époque, eh bien, qui pensait, mais alors, avec grande conviction, c'est-à-dire... voilà, il n'y avait pas de doute, que tout ça allait rentrer dans l'ordre.
Oui, voilà.
Qu'on allait mater cette pseudo... petit soulèvement de rien du tout, et que c'est des voyous, on disait, des petits terroristes, on allait vraiment vraiment tout régler, et tout allait rentrer dans l'ordre, et puis voilà quoi. Mais non, ils n'ont pas vu arriver, parce qu'ils ne sont pas le peuple.
Mais exactement, oui.
C'est ça.
Et quand le peuple a la force et la détermination de vouloir se libérer, ça finit par arriver, c'est normal. Et ça,
fallait qu'il
s'en rende compte.
Ah oui, mais
et je voudrais dire aussi que, par exemple, la France, d'un point de vue plus culturel, la France a fait très peu, par exemple, de films sur la guerre d'Algérie. Et ça, moi, c'est quand même quelque chose que je reproche. Il y en a eu très peu. Et ce que les Américains ont réussi à faire quand même avec le Vietnam, et les Français en ont fait peu.
Ouais.
Et on peut pas dire que qu'on les voit souvent passer, par exemple à la télé, hein.
Non, il y a pas eu grand chose. Ouais. Non. On parle pas de ça. C'est encore un sujet tabou. C'est pour ça que cette histoire avec l'Algérie et la France aujourd'hui, en 2023 encore. Bon, c'est pas la guerre, heureusement. La hache, elle a été enterrée avec belle lurette. Non. Puis bon, on a un jeune président, Macron, Emmanuel Macron, qui fait que, bon, lui, il a pas connu la guerre. Donc, il est un petit peu détaché de tout ça. Il y a pas quelque chose des résidus du passé. Et qui, de temps en temps, il essaie quelques murmures, hein, on va dire, pour un peu arranger les choses. On lui tombe dessus à chaque fois. Quand il dit que c'était un crime contre l'humanité, là, quand on lui tombe dessus.
C'est un crime contre l'humanité.
C'est
un crime contre l'humanité, c'est pas autre chose, hein.
Ça c'est encore pas accepté, tu vois.
Oui.
Alors que quand tu parles d'autres guerres, on va te dire, ah oui, c'est des crimes contre l'humanité. Mais toutes les guerres sont des crimes contre... À partir du moment où vas tuer des gens
Parce qu'il y a une défaite qui est amère.
Non, mais c'est pas ça. Je vais aller plus loin. Les Allemands, ils en veulent pas à la France, etc. Tout est réglé. C'est-à-dire que la défaite était du côté allemand. Mais ce que je veux dire avec l'Algérie, qui est particulier, il y a plein de guerres où il y a eu des défaites, où ils se serrent la main, il n'y a pas de souci.
Mais
l'Algérie, c'est très, très, très particulier. Très particulier. Et d'ailleurs, longtemps, on a mis je ne sais combien de décennies ou de presque un siècle pour reconnaître que c'était une guerre parce qu'ils n'avaient pas le choix à l'ONU, etc. Oui. Ouais. Mais on avait du mal. Alors faire des films, c'est encore compliqué parce qu'aujourd'hui, quand on regarde certains plateaux de télé, faut pas parler de la guerre d'Algérie. Quand on parle de la guerre d'Algérie, on parle, mais alors de l'autre côté, mais non, il n'y a pas eu de torture tant que ça, c'est rajouté. Et puis patati, et puis attendez, hein, le FLN, il a fait pas mal de trucs, etc. Sauf que le FLN, c'est le Front de Libération Nationale d'un pays qui se défend contre la colonisation du bord.
Pour moi, ce sont des héros.
Moyens du bord.
Mais bien sûr.
C'est une guerre, que tu veux faire? Ils n'allaient pas envoyer des pommes de terre, là, voilà.
Mais bien sûr.
Non, mais c'est vrai.
À chaque guerre, c'est résistant.
Malheureusement.
Exactement.
L'Algérie a été résistante de la même manière que la France a été résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Mais oui. Mais il faut honorer les résistants en France
bien sûr.
Quand même pas dire le contraire, hein, toute française que je suis, des résistants, c'était, il y en avait pas beaucoup, hein. Il y en a pas eu beaucoup, hein, les Français, c'était quand même beaucoup, franchement, vive Pétain, hein. De Gaulle arrive, et puis, du jour au lendemain, c'est vive De Gaulle les nazis. Mais bon, moi, c'est mon idée, hein. C'est mon point de vue. Hein.
C'est Martine qui le dit.
Écoute, c'est pareil. J'ai beaucoup lu, j'ai vu beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie?
Martine.
Moi, j'étais bibliothécaire.
Mais c'est ma copine alors. Un rat de, on appelle ça comme ça, un rat de bibliothèque. Petite déjà, mais c'était quelque chose pour moi.
Mais c'est le plus beau métier du monde.
J'admirais les bibliothèques, les bibliothécaires, parce que c'est le plus beau métier. Tu te rends compte le bonheur.
La retraite, moi j'étais en retraite il y a 4 ans. Je suis tout le temps malade. J'ai du mal.
Mais Martine, tu devrais trouver une occupation parce que tu as une voix toute jeune, mais on voit que tu es encore. Mais vraiment, il y a tellement de vie en toi. Il y a une seconde vie là. Il y a un second souffle, on le sent. Mais pourquoi tu te remets pas dans une activité? Tu peux aider, apporter ton aide. Oui, Martine.
Elle nous a déjà parlé des douleurs qu'elle avait.
Ça disparaît. Elle a des douleurs, Martine, parce que c'est... Non, les douleurs, c'est psychologique.
Non, j'ai vraiment de l'arthrose.
T'as l'arthrose?
Oui. Voilà, de la polyarthrose. J'ai déjà téléphoné une fois.
C'est compliqué.
Ça fait très mal. Je sais ce que c'est.
On m'a posé une prothèse de hanche, là, tu vois. Je suis quelqu'un qui marchait énormément Bon, bref.
Mais tu peux faire ça à distance, ma chérie. À distance, avec Internet aujourd'hui, qui est,
oui,
qui est
un outil sûr.
D'un côté diabolique, parce que Internet, ça peut,
oui,
c'est,
oui.
c'est vraiment le tout et son contraire. Mmh. Et d'un côté, c'est une merveille, c'est un trésor.
Mmh.
Et tu peux, à distance, faire des choses.
Quand j'étais à la bibliothèque, je suis dans une ville où il y a beaucoup de population d'origine étrangère. Et quand j'étais à la bibliothèque, ben, moi, j'aime beaucoup l'histoire, donc j'aimais beaucoup aider les jeunes, les enfants, les ados. Et quand je vois tous les remerciements que j'ai eus de leur part...
Oh, c'est bon.
J'ai une lettre d'un jeune garçon qui est franco-algérien d'ailleurs, oui. Avec qui je suis toujours en contact. Enfin, maintenant, oui. il a 49 ans. Hein.
Oui, oui, oui.
Et je l'ai connu tout petit. Et qui m'a écrit une lettre au moment de ma retraite.
Wow.
Et j'ai été tellement émue que je n'arrive même plus à la relire.
Oh, ben, j'aimerais bien que tu nous la relises, tiens.
Je sais pas où elle est, mais.
Ah, ben, faudrait que tu la retrouves, hein. ah, j'aimerais bien. Je suis curieuse, là,
soudain. Alors, c'est
beau.
C'est. Ah, mais vraiment, ça m'a. Mais j'ai été le voir hier, tiens, il faisait du théâtre en amateur. Donc, c'est quelqu'un que j'adore.
Mm-hmm.
J'adore. Mais vraiment, alors, on rigole bien tous les deux sur. C'est quelqu'un de très très humain aussi, très, on est pareil, enfin il est pareil, il a un grand sens de l'humour aussi,
mm-hmm.
humour noir et tout, c'est vraiment, il est génial, et vraiment, oui, tout ce que j'ai pu recevoir après, au moment de ma retraite, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touché, beaucoup touché.
C'est magnifique.
Ah oui, oui.
Ah ouais, vraiment.
Et je voudrais, pendant que j'y pense, je voudrais citer... Je reviens sur la guerre d'Algérie. Je voudrais citer quelqu'un, un film algérien c'est le film, et je l'ai vu deux fois dans ma vie. Il ne passe jamais à la télévision. Dans ma ville, il est passé. Il était passé dans ma ville.
Oui.
Au début, je travaillais à la bibliothèque, donc dans les années 80. Mmh. Et je l'ai revu une fois sur Canal+, il y a longtemps. C'est le film de Mohamed Lakhdar Amina, Le Vent des Aurès.
Le Vent des Aurès, oui.
Ah,
le
mais
grand
quel
film, hein.
magnifique film. Ah, oui. J'ai jamais pleuré magnifique, autant hein. pour un film.
Oui.
J'ai jamais. Et je me dis, jamais, à part une fois sur Canal+, jamais il passerait ce film, qui est d'une humanité, une mère avec son fils. C'est tellement magnifique, quoi.
Magnifique.
Là, toutes les mères se retrouvent.
Ouais, il est sorti en 1967, c'est un grand film. Mohamed Lakhdar Amina, c'était vraiment
ouais.
un grand réalisateur, scénariste
très, très,
et tout
très
ça.
Grand.
Il y a eu aussi la bataille d'Alger aussi.
La bataille d'Alger, oui,
c'était
bien
un grand film
ouais.
aussi, la bataille
ouais,
d'Alger, qui a été tournée, je sais plus quelle année, je crois que c'était avant. Pendant la guerre, je crois même.
C'était
hein.
pendant la guerre, c'était...
Il a commencé... il est sorti en 66, voilà.
Ah ouais.
Ah oui, non, ça a été tourné en 50... Attends, alors là, je dis
il a été tourné dans les années, au début des années 50, je crois.
Alors, je vais te dire ça tout de suite pour pas dire de bêtises. Alors, la bataille d'Alger, un film, alors donc, qui était Algéro-Italien.
Oui, oui.
De Gillo Ponte Corvo, qui est sorti en 66. Voilà, le récit se déroule... Ah oui, parce que les récits se déroulaient pour l'essentiel entre 54 et 57.
L'histoire,
elle était autour de. Mais c'est un film très 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 touchant. Moi, je l'ai regardé. Je ne sais combien de fois. et j'ai pris des larmes d'ailleurs. J'ai versé les larmes de mon corps.
Mais Dieu sait qu'il a été critiqué en France. Hein.
Voyons.
Oh là là.
Voyons. Tu ne pars pas, Fatima. Et les autres, on vous attend 01 53 48 3000. Où tu es, Méziane? Et les autres, venez faire débat avec Martine et Fatima. C'est un sujet qui est très, très important. Et aujourd'hui, d'autant, ne venez pas demain. Demain, on sera 9 mai. Hein. Aujourd'hui, je vous attends. C'est le 9 mai, donc qui est une date sombre pour les Algériens. N'oubliez pas, 45 000 morts. C'est l'autre 8 mai 45. Kharata, Sétif. Et Guelma. Voilà, c'était le début d'une grande guerre, malheureusement, qui a fait beaucoup de morts. Alors, tout de suite, nous avons Fodil de Beurre FM, hein, que vous connaissez, je ne le présente plus. Voilà. Qui nous, qui va nous montrer, parce qu'il écrit, hein, il écrit de belles choses sur le site de Beurre FM, il est journaliste, il écrit vraiment, il a une très belle plume. Et là, il nous a fait une petite surprise.
C'est un petit poème que j'ai écrit à l'arrache tout à l'heure. C'était un petit pari entre nous et finalement, je pense que j'ai tenu mon pari. Alors, en ce jour de commémoration, nous rendons hommage aux martyrs, ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l'honneur. Sétif, Guelma, Kharata sont des noms qui résonnent encore. Des villes qui ont vu couler le sang de ceux qui ont osé défier le pouvoir. Des femmes, des hommes et des enfants massacrés sans pitié ni raison. Leurs cris de douleur ont retenti jusqu'aux cieux vers l'horizon. Leurs corps meurtris et mutilés sont restés dans la mémoire, symbole de lutte pour la dignité et la fierté de tout un peuple en victoire. Mais aujourd'hui, nous célébrons le courage et la résistance de ceux qui ont refusé l'oppression et défendu leur existence. Sétif, Guelma, Kharata sont des noms qui résonnent toujours, mais à travers la douleur et les larmes s'élèvent les chants de l'amour. Car les martyrs ont donné leur vie pour que vive une Algérie libre et unie, et leur sacrifice demeure un héritage de courage et de grandeur. Alors que leur mémoire soit honorée et que leur exemple soit suivi, pour que plus jamais ne s'éteigne la flamme de l'espoir et de la vie.
Je vais pleurer.
J'ai pleuré. Que j'ai rédigé tout
merci,
à l'heure.
Merci Fodil. C'est magnifique. Je t'assure que j'ai la voix là qui
compte. J'ai tenu mon pari finalement.
Oui, mais tu tiens toujours des paris, puis là tu étais bien motivé. Faut dire,
ouais, hein,
c'est une cause qui nous tient à cœur tous les deux et comme toute l'équipe de Beurre FM bien sûr.
Exactement,
ici, n'est-ce pas?
C'est quelque chose voilà. Qui m'a tenu à.
Merci Fodil.
C'est pour ça que je l'ai rédigé.
Bah écoute, il est magnifique.
Et espérons que la prochaine. Fois
magnifique, sera... on va le mettre sur le, hein, d'accord?
Je t'enverrai
sur nos comptes. Oui, sur nos comptes, sur nos réseaux sociaux. J'ai la gorge qui se noue et j'ai envie qu'on écoute Kassemen. Voilà, s'il peut monter le son. Voilà, en hommage à tous les martyrs. Allah yarham ghaïs shuhada, millions de shuhada. Allah yarham Moussa alayhum, inshallah.
21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Eh bien, c'était Cheb Mami, Mami, Cheb, ça y est, maintenant, c'est Mami, Mami tout court. Bledi Hiel Jezeir, voilà, une très 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 belle chanson, très bien interprétée, très jolie voix, voilà, qui rend honneur à ce grand pays qui fait 4,5 fois la France, ne l'oublions pas, voilà. 01 53 48 3000, juste avant, eh bien, l'hymne national Qassemen d'Algérie. C'est un hymne qui est juste magnifique. C'est un des plus. Tous les hymnes sont beaux, mais celui-là, il est sublime. Voilà.
Dans la chair de poule.
Voilà, voilà, exactement. On a vraiment des frissons. Et juste avant, on a eu le bonheur. J'ai dû m'arrêter. Hein. Je ne pouvais pas aller plus loin parce que j'avais la gorge qui se nouait. Quand j'écoutais, parce que je suis très sensible. Je pense que parmi vous, vous êtes nombreux à l'être quand il s'agit de ce sujet. Et juste avant, eh bien, le talent. Le talent, mais alors, c'est plus que du talent, c'est un don de notre Fodil de Beurre FM, qui est notre journaliste, qui a un talent fou dans l'écriture. Vraiment, c'est, je sais pas comment il fait, enfin, vraiment, c'est un don. Voilà. Et qui a écrit tout à l'heure, comme ça, sur le pouce. Hein, voilà. Il me dit, que tu penses que je fais un poème? Je dis, ben, ce serait génial. Moi, je pensais qu'il allait faire un poème, et demain, il va le lire. Je me suis dit, il va mettre la nuit. Il est parti dans le bureau, là, à côté. Deux minutes après, il revient, il me fait avec un papier, je fais, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, c'est fait. Je dis, ah bon? Carrément. Et puis en plus, vous avez entendu le poème, hein? Vous avez vu la qualité, c'est pas un truc vite fait, ouais, voilà, non. Vraiment, c'est digne d'un poète, je dirais, de poète du 19e siècle. Parce que les poètes d'aujourd'hui, il y en a, c'est vrai. Mais c'est dommage, c'est pas
magnifique. Non, je dirais pas
magnifique.
Ça. Je dirais pas ça. Après,
ah si, t'as écrit avec ton cœur, hein.
Oui, j'ai écrit avec mon cœur. En plus, il y avait de l'inspiration. Et le 8 mai 45, c'est un événement que j'ai étudié quand j'étais en Algérie. Ça veut dire que c'est un événement que je connais parfaitement.
Ah oui.
Oui, c'est un événement, c'est une date qu'on étudie au collège, au lycée et surtout, bon, de temps en temps à l'université. Mais à l'université, quand on fait de l'histoire. Et moi, j'ai pas eu la chance de faire de l'histoire. J'ai fait de la littérature française et la littérature, c'est toujours, ça m'a toujours inspiré. Pour moi, comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et je voulais faire quelque chose de simple aujourd'hui. Je sais que peut-être éventuellement, il y a des familles qui nous écoutent et qui ont des proches qu'ils ont perdus pendant cette date-là. Et l'inspiration vraiment fatale de ce poème, c'était l'histoire de ton papa, parce que je sais que tu y tiens. T'as pas eu l'occasion, Vanessa, de le connaître. Et là, c'est comme ça. Mais dans la vie, en tout cas, même si, comme je t'avais dit la dernière fois, même s'ils sont pas dans ce monde, mais ils sont toujours proches de nous. Et si j'ai appris quelque chose, c'est qu'il y a toujours un ange gardien qui veille sur nous. Et la preuve, tu as la preuve devant toi. Et bon, nous, on essaye de veiller sur toi. Et je pense que toi aussi, tu fais de même pour nous.
Je t'aime.
Moi aussi.
J'adore Fodil. Voilà. J'adore ce garçon.
C'est
vraiment.
Pour ça que c'est un amour. Que je l'ai écrit rapidement parce que l'inspiration y était. Et je me rappelle une fois, ben, les auditeurs ne le savent pas ce qui se passe en off, mais une fois on avait une discussion entre moi et toi et Philippe dans son bureau et ça t'a tellement ému. Et tout à l'heure, quand je t'ai entendu parler du mai 45, j'avais vu que tu y mettais du cœur. Et que tu m'as demandé quand même de mettre l'hymne national et je me suis dit c'est le moment opportun pour écrire quelque chose et ça s'est fait, Dieu merci comme on dit.
Merci.
Et voilà, et prends soin de toi. Je vous souhaite une excellente soirée en perspective et ne nous oubliez pas, demain on sera en direct avec Kim, Mona
à 6h. Exactement. Merci Fodil, merci.
Bonne soirée à tous nos auditeurs et nos auditrices.
Merci Fodil, merci pour tout, merci pour l'Algérie. Merci pour les Shohada les Rahmoum Saléhoum. Merci pour les Hayyin, ceux qui sont encore vivants et qui te remercient profondément ce soir. Vraiment. Vous voyez, la mémoire, elle est encore là et on essaye de transmettre. C'est important, la transmission, chers amis. Eh bien, beaucoup se posent la question, pourquoi les Algériens, les jeunes qui ne connaissent pas leur pays, finalement, qui sont nés en France, il y en a beaucoup qui n'ont jamais mis un pied en Algérie, les jeunes qu'on appelle les jeunes beurres. Eh bien, pourquoi ils aiment autant l'Algérie? Pourquoi, lors de n'importe quelle manifestation, quelle qu'elle soit, hein, des choses positives hein, aussi, hein, vous voyez, par exemple, on fête un match de foot qui n'a rien à voir avec l'Algérie, hein, ça veut dire, on va dire, je sais pas, on va fêter l'Australie avec le Danemark, allez hop, vous voyez, carrément l'opposé, vous voyez, et puis l'un des deux a gagné, et puis hop, on voit un drapeau algérien au milieu. Les Algériens sont partout, sont toutes les fêtes. Le drapeau algérien est partout. Un jour, j'ai dit, si Je suis sûre que sur la Lune, sur l'autre versant de la Lune qu'on ne voit pas, il doit y avoir le drapeau algérien, à mon avis. C'est comme ça. C'est comme ça, ça ne s'explique pas. Et que chaque Algérien, eh bien, a cet amour de son pays. Je parle pas de parler nationaliste, mais de cet amour pour son pays, qui est inexplicable. Et s'il y a une goutte de sang seulement, il peut y avoir des métissages, mais voilà. Et une goutte de sang seulement, eh bien, cette goutte de sang, eh bien, elle envahit tout le reste et elle prend toute la place. C'est comme ça. Ça ne s'explique pas, voyez-vous. Donc, parce que pourquoi ça ne s'explique pas? Il y a toujours une explication aux choses. Moi, j'ai la mienne, voyez-vous. Et tous ces jeunes qui sont partout, qui sortent avec les drapeaux algériens pour les fêtes, pour n'importe quoi, ouais, 1, 2, 3, l'Algérie en avant, etc. Tu parles de l'Algérie, mais c'est juste pas possible. Voilà. Mon explication à moi, c'est que c'est un pays qui a été un pays martyr. C'est un pays qui a connu tellement d'invasions, mais qui a toujours les Algériens de toutes les époques. Depuis l'époque des Berbères, on va remonter très loin dans le temps, voyez-vous. Nos ancêtres, eh bien, de tout temps, eh bien, ont toujours su résister à celui qui vient pour lui spolier sa terre, hein, l'occupant, on va dire, l'occupant ou le, voilà. Eh bien, les Algériens ont toujours résister. S'il existe un peuple sur terre qui mérite cette dénomination de résistant, moi je dirais c'est les Algériens, la vérité. Parce que dans les moments difficiles, ils sont là, vraiment. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. C'est avec leur foi, leur résistance vraiment face à un ennemi qui était redoutable. Il y avait des avions qui lâchaient des bombes. On donnait des coups de pied dans les portes, alors les montagnards, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont enduré? C'était tellement facile. On rentrait, on leur brûlait tout, bétail, les maisons, tout ça, tout. Et on massacrait à tout va et on torturait. Mais malgré ça, on tuait leurs enfants. On les tuait. Mais malgré ça, ils faisaient face. Ils lâchaient pas. C'est-à-dire que, voilà, ils y allaient, quoi. Ils avaient une foi inimaginable. Alors quand on parle des résistants, il faut pas oublier résistants et résistantes, parce que n'oublions pas les femmes, n'est-ce pas? Durant la bataille d'Alger, il y avait beaucoup de femmes, Djebila Bouhaira, Zohra Drif, et toutes ces femmes, les noms m'échappent parce que là je suis face au micro et que j'ai pas tous les noms en tête, mais elles étaient très 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 nombreuses, les femmes, voyez-vous. Et dans les montagnes aussi, dans les montagnes, les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient dans les montagnes? Eh bien, elles faisaient à manger, qu'elles préparaient la galette, voilà, que sera Arom, tout ça, préparé pour les résistants, et oui, pour le Mujahideen, qui venait s'alimenter la nuit, à l'abri des regards et des soldats français. Et dans la journée, les pauvres malheureux, eh bien, les soldats savaient, parce qu'il y avait toujours des gens qui trahissaient. Donc, le lendemain, eh bien, les soldats français venaient, eh bien, brûlaient tout, enlever des femmes, il y avait des viols, il y avait des massacres sans nom. Et les viols, n'en parlons pas des viols. Et les viols! Les viols, Mohamed Garn, tiens, allez voir l'histoire de Mohamed Garn, avec lequel j'échange de temps en temps. Il faut que je lui réponde. Mohamed, si tu es à l'écoute, Samhli, j'ai vu que tu m'as envoyé un message la dernière fois, je t'ai pas répondu, mais j'étais pas à Paris. Mohamed Garn, son histoire, elle est foudroyante. Vraiment. Il est issu d'un viol. Sa mère, elle avait peut-être 14-15 ans, elle a été enlevée, était vraiment dans le cœur de l'Algérie, et dans les campagnes, elle a été enlevée, gamine qu'elle était, et dans une caserne, elle a été violée pendant des jours et des jours et des nuits, miskina, violée, et puis un jour elle tombe par des soldats, ils faisaient des tournantes, un jour elle tombe enceinte, ils ont su qu'elle était enceinte, ils ont essayé de donner des coups de pied dans le ventre, etc., pour faire tomber le bébé. Ah ouais, ce bébé a résisté, il avait une goutte d'Algérien en lui, vous voyez, 50%, bah ouais, 50% du violeur ou des violeurs, et 50% voilà, de l'Algérien qui résistait, il a résisté. Et ce petit enfant, c'est Mohamed Garn, voilà. Et c'est des bonnes sœurs, comme on dit, des nonnes qui l'ont récupéré, et, voilà, qui ont récupéré cette femme, cette jeune fille, et qui a pu être sauvée, et puis après qui a fini en perdant la raison, qui dormait dans les cimetières après l'indépendance. Il a cherché sa mère, il l'a retrouvée, il a écrit un livre, La Louve, en parlant de sa mère. Il s'est occupé de sa mère, Mohamed Garn, etc., et qui avait perdu la raison. Il a tout fait pour elle, et Miskine, et elle est décédée maintenant, Laya Hamha. Moi, j'ai beaucoup parlé avec lui. Il est venu un soir à la maison parce que je l'avais invité dans mon émission la veille. Donc, il m'a montré plein de documents. On était assis par terre et tout. Il y avait tous les documents. On a beaucoup parlé. Vraiment, c'est un homme exceptionnel, issu d'un viol. Eh oui. Alors, vous voyez. Donc, voilà. Allez voir son histoire. Mohamed Garne. Vous allez retrouver sur Internet. 01 53 48 3000. Je sais pas où elle est, ma Martine. Martine, reviens. Allez, on revient juste après cette petite pause. Elle est très courte.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000. Et ce soir, eh bien, nous parlons de l'autre 8 mai 45, le massacre de Sétif, Guelma et Kharata, 45 000 morts. La yarhamoum, yusalioum shuhada. Voilà. Alors, chers amis, avant de reprendre avec Fatima de Stein, Mohamed de Saint-Étienne aussi, et les autres, allez, venez, venez. On est là jusqu'à 23h, et 23h, c'est bientôt, hein. Donc, venez vous exprimer. C'est une histoire, je pense, qui vous touche de près. Eh bien, avec Sohel, lui, au standard, et moi ici, à travers les mails et les messages que je reçois, eh bien, vous êtes nombreuses et nombreux à réclamer le poème de notre ami Fodil. Et une deuxième fois, et nous aussi on a envie. Hein, tu as reçu beaucoup d'appels. Hein.
Harcelé au téléphone pour que. Enfin, les gens me demandent à Fodil de revenir lire son poème. J'ai même des gens qui veulent être des poètes eux aussi et lire des poèmes pour l'Algérie. Donc, franchement, une soirée poétique comme ça, moi, ça me va à fond. Je vais aller voir Fodil et je vais lui demander si c'est possible.
Eh bien, écoute, vas-y, demande-lui. Et puis, c'est bien parce que tu apprends un peu l'histoire, là. Hein, Sohil.
Oh là là, Vanessa. Oui, j'apprends l'histoire et moi, c'est Solal.
Je peux t'appeler Sohil ?
Si tu veux, non, franchement, appelle-moi Solal. Comme tu veux.
Oui, comme je veux. Solal, c'est très joli.
Merci.
Parce que je connais des Sohil aussi.
D'accord.
C'est joli aussi.
S-O-I-L.
S-O-H-E-I-L.
Ah, ok, d'accord.
Voilà. Et Solal, c'est très joli, c'est très joli, Solal. Hein.
Merci, ça fait plaisir.
Tu es le seul Solal que je connais, la vérité, la Terre.
Écoute, on m'a dit très tôt que c'était un nom assez original, mais j'ai eu la malchance de tomber que sur des Solal durant toute ma vie.
C'est pas vrai.
Bah, mon meilleur pote s'appelle Solal.
Donc, ah ouais?
Ah ouais.
Oh punaise, c'est pas possible. Par exemple, je regarde Solal. Et le premier romancier d'Albert Cohen, publié aux éditions Gallimard.
Très bien.
Alors, tu vois, déjà, un romancier.
Exactement.
C'est un prénom masculin.
C'est le titre d'un livre et c'est aussi le personnage de Belle de Seigneur.
Et d'où il vient, ce prénom? Alors, on me dit, c'est un prénom qui vient du mot hébreu Solel.
Ouais, soleil. C'est celui qui balaye devant sa porte.
Ah, bah disons, tes parents, ils ont eu de l'imagination.
Voilà, là, ils sont très maniaques sur le nettoyage, franchement.
Et même au second degré.
Ah oui, oui.
C'est bien, c'est-à-dire qu'ils commencent par eux-mêmes.
Ça va, ça va.
Il y a de l'auto...
Je reçois encore plein d'appels au standard.
Eh bien, je te laisse répondre et on va laisser Fodil. Je te laisse Solal répondre.
Je
vais l'appeler Sohel, il faut que je mette Solal devant moi. C'est très joli comme prénom, c'est hébraïque. Alors... Fodil, merci. Merci Fodil d'être venu parce qu'on avait besoin. Les auditeurs te réclament ton poème. Alors donc on y va.
Alors en ce jour de commémoration, nous rendons hommage aux martyrs, ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l'honneur. Sétif, Guelma, Kharata sont des noms qui résonnent encore, des villes qui ont vu couler le sang de ceux qui ont osé défier le pouvoir. Des femmes, des hommes, des enfants massacrés sans pitié ni raison, leurs cris de douleur ont retenti jusqu'aux cieux vers l'horizon. Leurs corps meurtris et mutilés sont restés dans la mémoire, symbole de la lutte pour la dignité et la fierté de tout un peuple en victoire. Mais aujourd'hui, nous célébrons le courage et la résistance de ceux qui ont refusé l'oppression et défendu leur existence. Sétif, Guelma, Kharata sont des noms qui résonnent toujours, mais à travers la douleur et les larmes s'élèvent les chants de l'amour. Car les martyrs ont donné leur vie pour que vive une Algérie libre et unie, et leur sacrifice demeure un héritage de courage et de grandeur. Alors que leur mémoire soit honorée et que leur exemple soit suivi pour que jamais ne s'éteigne la flamme de l'espoir et de la vie.
Bravo, magnifique. Alors moi, je voudrais que tu l'imprimes, que tu me l'envoies, parce que je reçois des messages et les gens veulent vraiment l'avoir. par écrit.
Imprimé, je t'enverrai par mail.
Voilà, tu me l'envoies par mail et je vous promets, hein, je vous promets de publier sur mes comptes Facebook. Merci. Merci en tous les cas. Voilà, ça méritait au moins d'être entendu, d'être lu deux fois. C'est juste magnifique. Et sur le mur, j'entends Allah yarham shuhada de Saïda Mouna qui dit Allah yarham shuhada wal junoud wal fida. Ernaud qui dit Allah yarhamhum. Soraya Allah yarham shuhada. Fatma Zahra, gloire à nos martyrs. Et d'autres encore. Zara qui dit paix à leurs âmes shuhada. Et d'autres. Oui, bravo, merci. Il faut vraiment pas les oublier. Faut pas qu'ils tombent dans l'oubli. Surtout pas. C'est très important. Voilà. On a Aïcha qui nous appelle de la Drôme. On a Mohamed de Saint-Étienne qui veut lire un poème aussi. Aïcha de la Drôme. On va voir Aïcha ce qu'elle va nous dire. Bonsoir Aïcha.
Bonjour Vanessa.
Bonsoir.
C'est longtemps que je voulais te parler. Et voilà l'occasion. Je suis un peu émue. Et je voulais parler sur un sujet, sur le shuhada.
Oui.
Je suis une fille d'un shuhada qui est mort il y a 59.
Tu as écouté le poème de Fodil?
Oui, je l'ai écouté. Il m'a plu beaucoup.
C'est
mais je voulais parler d'un sujet aussi.
Oui.
Tu vois, j'étais orpheline. Mon père, il est mort. Il m'a laissée à 6 ans. Et j'étais élevée avec ma mère et soeur mariée, et puis d'un monsieur qui a été entraîné par l'armée française et qui est devenu anarchique par la force des choses.
Oui.
J'aimerais parler de ce sujet-là.
Oui, bien sûr.
J'ai été élevée par ce monsieur-là.
Oui.
Que je considérais comme mon père.
Oui.
Oui. Et je voulais dire qu'on n'oublie pas les enfants des archis. Parce que on est reçu ni d'un côté ni d'un autre. On est rejeté par la France et on est rejeté par l'Algérie.
Par la France, c'est pas normal. Mais tu sais que les enfants, tu dis les enfants de harkis. Moi, j'ai des amis qui sont enfants de harkis. Eh bien, on s'est vus en Algérie, on a fait des voyages ensemble, et que les enfants de harkis partent depuis très longtemps en Algérie. Je te parle pas d'aujourd'hui, hein. Même du temps de Boumediene. Hein. Les enfants de harkis partent en Algérie facilement. Hein. Ils vont voir leur famille.
Oui, je suis partie.
Moi, j'ai des amis, ils partent, il y a aucun souci. Ils rencontrent aucun problème. Attention, parce qu'il y a des rumeurs. Le gouvernement algérien n'a jamais interdit l'accès aux enfants de harkis. Alors que certains pays, quand les leurs, hein, les gens de leurs origines, tout ce que tu veux, eh bien, choisissent le camp adverse, eh bien, ils sont rejetés. Alors que l'Algérie, ils rejettent tout le monde. Alors que l'Algérie n'a jamais rejeté les enfants de harkis.
Je ne parle pas du gouvernement ou de tout ça.
Même les gens, ils rejettent pas. La vérité, les gens, ils sont cordiaux, ils font la part des choses. Les gens, ils ont même pardonné. Tu sais, il y a des colons qui repartent. Et tu vois dans des reportages, regarde sur YouTube. Et des colons, hein, quand ils repartent là-bas, les Algériens leur ouvrent la porte en disant voilà. C'est parce qu'ils veulent visiter leur maison. Vous avez habité ici parce qu'ils ont vendu leur maison. Les Algériens ont racheté. Ils ont dit voilà, vous êtes chez, c'est toujours votre maison. Entrez, marahba. Ils leur servent le thé et tout. Les Algériens, c'est un peuple vraiment, hein, un peuple digne et unique parce qu'il n'a pas de rancune. Il n'y a pas de rancune. Après la guerre, regarde, tu t'entends pas les Algériens dire ouais, enfant de harki. Non, jamais. Jamais. Et quand ils partent en Algérie, ils sont bien reçus dignement. Et c'est tout à fait normal. Tu sais, on ne choisit pas on choisit pas qui on est, où on est, comment. La vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite. Et comme tu disais tout à l'heure, peut-être que parmi ces harkis, il y en a, malgré eux, il y en a, on leur a menti. Il y en a peut-être qu'on les a aussi, menacés. On sait pas la vie de chacun. Tu comprends?
Là, ce soir,
par exemple, il est nullement question de condamner qui que ce soit, de dire harki ou quoi que ce soit, jamais. Et d'ailleurs, sur cette antenne, jamais on condamne qui que ce soit. Jamais. On respecte tout le monde. Mais sauf que là. Tu as vu, jamais chez nous. Non, ça jamais. On respecte tout le monde. Moi-même, je dis, j'ai des enfants de harki, c'est mes amis, alors que moi, mon père est mort chez, tu vois, dans l'autre camp.
Oui.
Mais ça m'empêche pas d'avoir cette intelligence, d'avoir des amis, dont les parents étaient de l'autre camp. Parce que on va pas tout mélanger non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, il faut être intelligent et digne. Mais, là, ce soir, tu vois, Voilà, il était question juste de commémorer, parce qu'aujourd'hui, on est le 8 mai 45. Et le 8 mai 45, vous l'avez vu depuis ce matin, le président de la République, eh bien, est allé, comme chaque année, vers les anciens combattants, tout ça, faire la commémoration, chose qui est normale. C'est le président de la France, il commémore les dates historiques françaises. Et bien, nous, ici, sur Beurre FM, on est français, certes, mais on a nos origines qu'on n'oublie pas.
Ah oui,
Alkmaïn sa aslo, rire, et je vous laisse deviner la suite. Mansach Aslan. Alors, donc, on n'oublie pas d'où on vient. Et donc, aujourd'hui, comme tous les ans sur Beurre FM, eh bien, nous, le message et surtout le thème, c'est l'autre 8 mai 45, parce qu'il ne faut pas oublier le massacre de Sétif, Guelma et Kharata. 45 000 morts en une journée. Et tu sais que pendant la guerre d'Algérie, 1,5 million d'Algériens qui sont morts pour avoir lutté, combattu pour leur liberté, pour l'indépendance. Tu comprends?
Mon père, il est mort pour ça. Il est mort en 59.
Et tu vois, l'Irahmou Yussalé. Mais oui, ma chérie.
C'est pas ça le sujet. Je
oui,
dit.
Oui, oui, vas-y, ma chérie.
Malgré mon père, il est mort. Moi, je suis heldi. J'étais quand même dans la misère. Et c'est un narqui qui m'a élevé.
Bien sûr.
Parce qu'il a été pris au marché par sans sa volonté. Il est rentré dans l'armée française. Et aujourd'hui, ce qui fait mal au cœur, c'est qu'on est rejeté des deux côtés. C'est ça que je voulais
dire. Non, mais quand tu dis des deux côtés, ce qui est anormal, lui, non, mais les Harkis, ils ont choisi leur camp. Donc, normalement, non, et on n'a pas à juger de l'histoire. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Jamais, au grand jamais, qui je suis, moi, pour juger pourquoi l'autre, il a. Non. Jamais. Moi, je respecte chacun, il a choisi son camp, Adam Akan. Mais ce que je veux dire par là, quand tu dis quand tu dis rejeté, choisi ou pas, peu importe, il y en a qui n'ont pas choisi, hein, qui ont été enrôlés, et d'autres qui ont choisi, c'est leur droit. Non, c'est pas ça le problème. On n'a pas à juger les gens. Ce que je veux dire, pour répondre quand tu dis rejeté des deux côtés, tu trouves pas que c'est normal que l'Algérie, à ton avis, que l'Algérie, elle adopte cette position? C'est normal, non? Mais la France, non. Parce qu'ils ont choisi d'être français complètement, à part entière. Et voilà, ils n'ont pas choisi d'être algériens. Alors donc, s'ils ont choisi d'être français, et c'est leur droit le plus absolu qui se respecte... lui, peut-être pas, mais il y en a qui ont choisi. Mais c'est à la France, à l'époque, eh bien, de défendre le droit des Harkis. C'est pas l'Algérie.
Ah non, non, c'est pas l'Algérie.
C'est pas l'Algérie. Voilà. Par contre... Chose qui peut-être pas... Enfin, moi, j'ai pas à juger. Hein. La France, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et voilà. Mais, si tu veux, si les Harkis ont une dent sur peut-être, je sais pas qui, à l'époque, peut-être sur la France, peut-être qu'ils les avaient peut-être rejetés. J'en sais rien. Tu dis rejetés. Moi, je vois pas rejetés. Parce que moi, les amis que j'ai, ils sont pas rejetés. Ils sont bien ici. Hein. Ils travaillent. Il y en a qui sont dans la politique. Il y en a qui sont dans les hautes sphères. Ça se passe bien. Non, ils sont pas rejetés. Hein. Peut-être certains à l'époque, hein, je sais pas. Moi, j'étais pas là à l'époque, j'étais trop petite, j'ai pas connu cette histoire des Harkis. Mais peut-être qu'à l'époque, ils ont été, peut-être en France, ils se sont sentis peut-être un peu pas compris par la France. Il n'y a pas eu de reconnaissance, peut-être, ça peut-être, oui.
Voilà.
Mais ça, c'est si tu veux, moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne me regarde pas.
Oui, c'est vrai.
Tu comprends?
Quand je voulais ce sujet-là, je voulais l'évoquer. J'ai dit bon.
Tu as raison. Mais quand tu dis ni par ni d'autres, non. Ouais. Tu devrais dire.
Moi, j'ai ressenti ça. Enfin, ouais. Peut-être que je suis un peu âgée et puis j'ai senti ça. Mais bon.
Oui, oui, oui. Si à l'époque ils se sont sentis peut-être incompris ou peut-être pas de reconnaissance de la part de la France. Moi, j'ai lu par-ci par-là. Peut-être ils ont raison là-dessus. Ça, on peut pas leur donner tort, hein, parce qu'au départ, c'est vrai qu'ils ont pas été accueillis comme il se doit en France. Ça, oui. C'est pas normal, c'est vrai. Mais que l'Algérie leur ouvre les portes comme ça et leur donne, il faut quand même pas exagérer, tu vois, hein.
Oui, non, j'ai été en Algérie plusieurs fois.
Mais les enfants de Harkis sont très bien reçus en Algérie, la vérité.
Ils ont reçu, mais on entend toujours quand même un peu la haine de.
C'est pas la haine. C'est comme en France quand tu es la guerre contre les Allemands. C'est pas la haine. C'est juste que il y a des familles. Il faut t'expliquer les choses. Tu sais l'histoire. Il y a des familles. Il leur reste encore quelques. Ils ont pas la haine du tout. Hein. Mais il en reste un peu de souffrance de cette époque et des souvenirs. Oui, tu sais, on a tous eu des papas qui sont... Regarde, moi, mon père, il est mort pendant la guerre d'Algérie. D'accord?
Oui. Il est mort... Bah moi aussi, je te
attends,
le dis.
Non, mais je te dis, non, mais je te dis, pendant la guerre d'Algérie, ils mettent Shahid. Et oui, il a été tombé avant de monter au front et prendre les armes, il était en ville. Donc il œuvrait en ville. Il était en sourdine, mais il faisait pour la résistance. Mais il a été trahi. Alors, oui. Tu comprends ce que il a été trahi par des gens de ses origines. Alors donc ça, tu comprends, auxquels il faisait confiance. C'est les gens de sa ville, ses voisins, il faisait confiance. Et puis d'un seul coup, ils l'ont trahi. Alors ils l'ont trahi. Il a été torturé à mort. L'électricité, oui. Il a connu tout, la Gégène. Il était à mort, il a été jeté, mais tu peux pas t'imaginer. C'était, ils l'ont jeté devant la porte pour qu'on l'enterre, tu vois. Et il était à sang. Donc après, quand il a été soigné, il caché, soigné, etc. Après, il a pris les armes, il est monté au front. Tu comprends? Oui. Mais dans un premier temps, pourquoi il était torturé à mort? Parce qu'il a été trahi.
Il a été trahi.
Ah ben, il a été trahi. Ma chérie.
Que mon père, il a...
Alors, comment tu veux que les gens ne parlent... Comment tu veux que les gens, ils ne parlent pas de ça? Quand on parle, il faut pas avoir la langue de bois. Il faut parler de tout. C'est-à-dire qu'on dit, ah, il est mort chahid, mais non, c'est tout comme ça. Non, il faut dire pourquoi, comment c'est arrivé. Voilà. Oui. Et la plupart des chouhada, je veux dire, il y en a beaucoup qui ont été trahis. C'est leur voisin, c'est l'autre qui dit, attention, lui, il est dans la... Ils vont dire aux militaires français, ouais, vous savez, il y a mon voisin, c'est un résistant, il est FLN. Et ça, il faut le dire aussi. Donc, tu comprends, on n'est pas là pour juger. Mais il faut tout dire. Il faut pas avoir la langue de bois. Si on a la langue de bois pour être hypocrite, ça, c'est pas possible.
Non, non, non. Moi, dans ma famille, au moins pour mon père, c'est l'avion qui l'a bombardé avec trois, sont morts sur le coup.
Ah, tu vois.
Mais de sa famille, au moins six personnes ils ont été tués parce que lui, il était chouette depuis, ils nous ont condamnés à cause de lui, quoi. La France, la tué au moins, tout ça.
Ah bah, tu vois, vous avez tous une histoire à raconter. Et oui. Ça. C'est juste magnifique, vraiment.
Magnifique.
En tout cas, il y a une chose, on arrive à la fin. Là, on est en 2023, la page est tournée, comme on dit, jamais déchirée, mais tournée. Et là, on avance, c'est juste pour ne pas oublier ceux qui ne sont plus. Voilà, tout simplement. En tous les cas, on est là pour juger personne. Et nous sommes tous frères en humanité. Et en France, nous cohabitons tous ensemble. Que les gens étaient d'un bord, d'un autre. Regardez, avec l'Allemagne, ce qui s'est passé, ils sont tous frères. Eh bien, ici, en France, on est tous frères. Peu importe de quel bord les gens étaient. Voilà, il faut avancer maintenant. Voilà, chers amis, cette émission se termine ce soir. Paix aux âmes de toutes les personnes mortes dans le monde, j'ai envie de dire. Voilà, de quelque manière que ce soit. Terminé, Solal, pour ce soir.
Merci beaucoup à tous les auditeurs d'être toujours aussi présents à nos côtés. Et Vanessa, merci à toi.
C'est gentil. Merci, Solal. On se dit à demain. À demain. Allez, belle et douce nuit à vous, chers amis. Faites de beaux rêves. Et demain, un autre sujet, un peu plus joyeux. Et on changera demain. Passez une belle et douce nuit. On vous laisse avec Rayantologie, les programmes de Beurre FM. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dès 11h pour vos petites annonces. À demain, je vous aime. Bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.